trois sorciers de Smart Bourse avec nous, comme chaque troisième vendredi du mois, pour décrypter cette échéance du mois d'avril. Romain Daubry est à nos côtés, évidemment, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain.
Bonsoir Grégoire.
Jean-Louis Cussac nous accompagne également, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir Grégoire.
Et Philippe Béchade avec nous, en visio, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Salut Philippe, merci d'être avec nous pour commenter effectivement cette échéance et une séquence de marché depuis le début du mois d'avril qui est un peu différente peut-être de ce qu'on observait jusqu'à présent, en tout cas sur l'ensemble du premier trimestre. Romain, quel bilan vous faites de cette échéance qui marque une petite baisse par rapport à la journée d'expiration précédente?
Oui, une petite baisse de un peu plus de 2,2%. 185 points, un bilan, on était assez unanimement d'accord le mois dernier pour dire que ce serait difficile d'aller beaucoup plus haut. Et effectivement, une consolidation qui s'est mise en place et un coup d'arrêt dans la tendance qui est claire, dans la tendance haussière qu'on connaissait depuis le mois d'octobre, qui est avérée maintenant. On n'accélère pas franchement à la baisse. Il y a des forces en présence qui sont assez opposées. D'un côté, on s'inquiétait d'une grosse, grosse complaisance sur du côté des couvertures dans les portefeuilles il y a un mois de ça. Mmh. Les warnings récents ont fait très nettement remonter la volatilité. On l'a vu, hein, 18 pour le VIX autour de 15 pour le CAC 40, avec aussi des niveaux ratios de couverture qui sont passés de, on va dire, 0,6 sur l'Eurostoxx, donc très très optimiste, très complaisant, ouais, à plus d'un 20, donc à des niveaux équilibrés, prudents, on va dire. Donc on a pris la mesure de ce qui se produisait, mais en même temps on a en contrepartie un intérêt qui n'a pas été reconduit en très grosse partie depuis l'échéance du mois de mars. 22% d'intérêt détruit après l'échéance du mois de mars dernier sur l'Eurostoxx, 25% à peu près sur le S&P. Et sur le S&P, on a reconstruit au cours de l'échéance 1,80% d'intérêt dans un mouvement de baisse de, je vais pas dire de bêtises, de 2,7%. Donc c'est pas beaucoup et c'est pas une grosse pression baissière. Sur l'Eurostoxx, on a baissé de environ 1% par rapport à l'échéance dernière. Il y a 2% de positions ouvertes en plus. Donc 2 750 000 contrats à hier soir, et encore, c'est à la veille d'une échéance technique, donc il y a une grosse partie de ces contrats-là qui ne sera pas reconduite. La moyenne du nombre de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx sur les 3 ou 4 dernières années, c'est 3 700 000 contrats. Donc ça veut dire qu'on a baissé à ce stade-là, en tout cas sans pression baissière, que les ratios de couverture ont été rehaussés, c'est important aussi. Et on avait indiqué déjà à l'échéance dernière que la zone 7948000 et tout ce qui s'était construit au-dessus n'était pas étayé et qu'on avait les chances de le revisiter sur le CAC 40, que la zone 4880-4915 sur l'Eurostoxx, tout ce qui s'était passé au-dessus n'était pas étayé, qu'on avait les chances de revenir sur ces niveaux-là. Pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on peut...
C'est les niveaux qu'on a vus.
C'est ce qu'on en sait. C'est un peu qui tout double. C'est-à-dire qu'on pourrait aller consolider un peu plus et doubler le score de baisse de 3-4% qu'on a connu. Mais on est entre deux eaux et c'est vraiment la saison des publications qui va déterminer tout ça. On a, si on veut prendre des exemples un peu opposés, L'Oréal qui a l'air de bien tenir ce soir après ses publications. Ouais. On voit qu'LVMH qui prenait plus de 5-35% au moment de sa publication n'est qu'à plus qu'à 1% de hausse par rapport à la clôture de la veille des publications. Danone, même schéma hier, 3,38 de hausse. Finalement, elle est à peu près à ces niveaux d'équilibre. Alors, est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est un peu technique? Je pense qu'on a d'un côté des acheteurs qui ont bien acheté et qui ne vendent pas, manifestement. Des opérateurs.
Il n'y a pas de pression forte sur ces vendeurs qui ont bien acheté aujourd'hui?
Non, ils ont de la marge pour la plupart et les niveaux sont lointains. On a accéléré assez vite. Et puis, en même temps, on a un consensus acheteur sur repli qui est quasi unanime. J'entends peu de monde dire le marché va se retourner ou je n'achèterai pas si on descendait à 7007, 7006. Donc, est-ce qu'on va aller jusque-là et est-ce que ça va offrir des points d'entrée? Est-ce que ce sera un petit peu en dessous? Pour l'instant, c'est plus ce scénario-là qu'on privilégie. Mais le schéma reste assez ouvert à court terme. On a cassé la dynamique aussi. Je ne vois pas former de nouveau plus haut tout de suite, sauf éléments majeurs et changements majeurs. En revanche, qu'on ait une volonté d'achat sur repli, c'est assez possible, compte tenu du contexte. Donc, on a des forces un peu opposées, mais pas très importantes, et on voit qu'il y a de la place pour reconstruire, pas de pression baissière, et donc des disponibilités aussi, puisque l'intérêt est moindre, pour réintervenir un peu plus bas. En tout cas, on se précipite moins sur le marché depuis quelques heures. Il s'est passé quelque chose récemment.
Ouais, effectivement, intéressant. Alors, il y a l'échéance, et puis cette journée, en tant que telle... Jean-Louis, qui est peut-être assez emblématique aussi d'un marché qui est aussi dans la résistance, hein, malgré le retracement de... Alors peut-être du pic au creux, on a dû voir des baisses de 3-4% pour les grands indices, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, tout commence pas très bien ce matin ou dans la nuit, effectivement, avec la géopolitique à nouveau. Une semaine après, Iran sur Israël, c'est Israël sur Iran. Et puis, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, le marché retrouve assez vite ses esprits.
Oui, oui, non, mais là, c'est vrai que sur le plan psychologique, le marché reste comme il était depuis des semaines, des mois, à voir les choses plutôt en rose, avec toujours l'espoir qu'on finira bien par baisser les taux d'intérêt, qu'après tout, avec cette période difficile, les sociétés dégagent de bons résultats. On le voit à L'Oréal ce matin. Bon, LVMH, c'est un retour à la normale, c'est pas non plus mauvais. Même si, en plus, ils avaient anticipé des mauvaises choses.
Oui, ça avait déjà baissé de 10% avant, quoi.
Ça avait même baissé...
Oui, peut-être plus, même, encore.
Plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je crois 25%, on avait perdu, parce qu'on était passé de 800 et quelques à 660, un truc comme ça. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est... Ce que je disais, c'était... Je pense qu'on peut se replier jusqu'à 7900 tout en conservant un potentiel de rebond maximum à court-moyen terme. Bon, ben, pour l'instant, on est dans cela. Toute la semaine, on a tapé 7009. Et je disais que c'est la rupture de 7880. Je donne une marge de 20 points qui me ferait penser qu'à ce moment-là, on irait chercher l'objectif que tu as donné, Romain, 7006, par exemple. Pourquoi pas la zone des 7006, 7550, peut-être. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'indication dans ce sens-là. Et ce que j'observe, c'est quoi ? C'est dès que ça stresse... La voile implicite remonte, mais pas trop, parce qu'ils sont déjà surprotégés, enfin, méfiants, protégés, etc. Donc, elle ne monte pas beaucoup, la voile implicite. Sur juin, par exemple, on est remonté à 14,5, pas plus que ça. C'est...
Rien d'anormal. Hein.
Non, rien d'extraordinaire.
Rien d'anormal. Hein. Même le VIX à 20, bon, ouais, la vol action...
avec toutes les options.
D'accord, mais bon, la vol action, elle est...
On reste
dans
une d'optimisme.
Ouais, c'est ça. C'est pas anormal d'avoir ces niveaux de volatilité sur des actifs risqués comme
moi,
les actions.
Moi, ce que je vois dans ce mouvement, bon, ce qui va un peu corroborer ce que tu dis, c'est valider ce que tu dis, c'est-à-dire on a un recul des acheteurs qui se disent qu'après tout, il y a du stress, je me recule. Et les vendeurs, bah, ils sont là comme d'habitude. Enfin bon, il y a toujours des vendeurs qui viennent évidemment vendre. Et du coup, ça baisse, mais ça baisse par à coup. Donc à l'ouverture, par exemple, hop, il y a un recul. Et puis après, ça rachète un doucement. La gestion algo fait ses petits gestions de delta. De toute façon, c'est pas compliqué. On fait 1 milliard dans la journée, 1 milliard, enfin. 1,2 milliard, on fait 2,6 milliards, 2,8 milliards, 3 milliards de temps en temps. Là, tout à l'heure, avant de partir du bureau vers 16h, on était, juste après l'échéance à 16h, on était à 2 milliards d'échangés sur le futur CAC. Bon, c'est une mensuelle, hein, c'est pas... Mais normalement, avec l'Eurostox, 11h50 midi, alors il n'y a que les options, c'est pas une grosse échéance non plus, mais ça dope un peu le volume. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a l'idée que les taux finiront par baisser. Et l'incertitude au Moyen-Orient, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable que ça soit aussi bien absorbé, parce que les États-Unis ont dit qu'ils feraient tout pour que ça se calme. Tout le monde, en même temps, l'Iran se trouve une excuse, Israël se retrouve une excuse. En gros, tu m'as mis une claque, je t'en ai mis une autre, on est quitte, quoi. C'est comme ça que, pour l'instant, les gens, enfin les investisseurs semblent voir les choses. Pourtant, c'est vrai que le danger, il est quand même présent. Mais voilà, on est encore à 8000 et tout semble aller pour le mieux, entre guillemets.
Et 7009, 7880, comme vous dites, là, c'est le fait d'être allé taper plusieurs fois cette zone, ça la fragilise
non,
un peu, pas spécialement.
Non, il n'y a même pas eu de volume dessus. On n'est pas resté longtemps dessus. À chaque fois, on a eu des rebonds assez rapides. Regardez, ce matin, on démarre au plus bas.
Oui,
Et après, d'ailleurs, on démarre plus haut que le plus bas précédent, déjà. Hein, dans la semaine, on a fait plus bas. Parce qu'on a fait cette...
Oui.
Donc, on démarre. Et derrière, c'est même pas genre un double appui, ça traîne. Non, ça démarre, puis ça monte, comme ça, tranquillement.
Voilà. C'est régulier.
Et puis parfois, après, ça refait l'inverse l'après-midi en fonction de New York. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que on pourrait continuer de retracer, de remonter, de retracer. Il y a quand même de quoi douter de la poursuite des événements. Trouver des nouveaux dossiers, ce n'est pas évident non plus, on l'a vu. Quand ça allait encore bien, là, il y a quelques jours, enfin la semaine d'avant, on voyait que les intérêts allaient vers des valeurs, entre guillemets, un peu à la ramasse, c'est-à-dire les équipementiers automobiles, etc. Alors, moi, je vois, il y a des touches à l'achat, on les voit sur Valeo, on les voit sur différentes valeurs, comme ça. Et bon, des valeurs aussi spéculatives, comme CGG, bien sûr, avec des changements de perception. Non, on voit qu'il y a toujours un appétit à aller chercher des choses considérées comme en retard.
Et vous l'avez dit, hein, tant que le marché estime qu'il y aura quand même quelques baisses de taux, même si elles sont moins nombreuses, ça reste quand même, j'allais dire, quelque chose qui maintient en haleine. La question un peu macro, mais bon, ça, on n'aura pas la réponse aujourd'hui. C'est, est-ce que l'histoire est vraiment en train de changer au point de se renverser, de plus avoir de baisse de taux, voire une Fed qui pourrait envisager à un moment, peut-être, de relever encore d'un cran. Pas là en mois de juin, mais peut-être dans 6-9 mois. C'est toute la question un peu forward-looking qu'il faut avoir en tête pour comprendre aussi la manière dont les marchés ont fonctionné au mois d'avril. Hein. Il y a eu ce choc de taux aussi, cette remontée des taux longs et des taux longs réels.
Avec un impact fort sur l'euro-dollar.
Ah bah bien sûr, et le dollar, grand gagnant évidemment de ce mois d'avril et sur le Forex depuis le début de l'année. Bah justement, Philippe, alors qu'est-ce qui vous intéresse dans cette échéance d'avril? Qu'est-ce qui a changé par rapport au premier trimestre? Qu'est-ce qui n'a pas changé en termes de tendance?
Bien, on va commencer par un sujet qu'on a peu évoqué, qui est la tension des taux. 15 points de plus cette semaine pour les OAT et les Bund, plus 18 pour le 10 ans italien, des niveaux les pires qu'on ait observés depuis début décembre, voire fin novembre 2023. En France, le 2 ans et le 10 ans sont maintenant à égalité, à 3,0150. Je dois dire que on a repris plus de 50 points depuis le début de l'année sur les OAT, 80 à 85 points sur le 10 ans américain, et on va dire que les marchés n'ont quasiment pas bronché. C'est merveilleux et ça donne raison à Jean-Louis. Effectivement, la construction des marchés les rend quasiment invulnérables. Je dois dire que là, on est confronté à quelque chose qui relève presque du merveilleux. Autre élément qui aurait pu peser sur l'évolution macro, c'est le yen défendu pendant une douzaine de séances bec et ongles par la BOJ aux alentours de 1,5160, enfin 151,60 contre le dollar, et qui a fini par lâcher prise et retracer des plus bas de 30 ans. Bon, là aussi, ça aurait pu inquiéter les marchés et ça n'a pas entraîné beaucoup de conséquences. Donc oui, le dollar, effectivement, c'est quand même le grand vainqueur de la semaine écoulée. Enfin, vu ce qu'on a dû digérer depuis le 14 avril au matin, hein, l'attaque massive de drones iraniens sur Israël, je dois dire que... Si on m'avait expliqué que dans une semaine, dans un contexte géopolitique comme celui-là, on aurait 15 points de hausse sur les OAT, 10-12 points de mieux sur les T-bonds, je vous avoue que je ne l'aurais pas cru. Bon, par contre, le dollar qui est monté, ça ne me surprend pas. Un petit mot de l'or, d'un vendredi sur l'autre, zéro. Il était à 2380 vendredi dernier, on le retrouve au même niveau, l'once d'argent 24,5. Le CAC 40, il n'a pas bougé. C'est fantastique, c'est à croire que le contexte géopolitique n'existe pas, que le contexte d'endettement général n'existe pas, qu'il n'y a pas de vrai stress face à un déficit US qui est de 6% du PIB.
Sophie, quand vous évoquez la remontée des taux longs, il y a quand même la question de la prime de terme, justement, et ça montre bien quand même que le marché est attentif d'une certaine manière à ces questions. Il y a les émissions du Trésor qu'on regarde aux États-Unis, 10 ans, 30 ans, il y a maintenant un peu plus d'une semaine. On sait que c'est des émissions qui sont parfois un peu difficiles, ça s'est encore confirmé. La remontée des taux longs, vous disiez effectivement, Philippe, c'est merveilleux, ça n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas eu d'impact, j'allais dire, jusqu'à la fin du mois de mars, mais quand même depuis quelques semaines, au-delà de 4,50, on voit que ça peut quand même troubler un peu le fonctionnement ou le rouleau compresseur des marchés actions.
Le rouleau compresseur des marchés actions, je vais vous dire, si vous excluez le compartiment des semi-conducteurs, donc l'indice SOX, si vous prenez, si vous voulez, le S&P 480 moins les valeurs du SOX, il n'a carrément pas du tout bougé ni réagi à la hausse des taux. Hein. Tout vient de la correction de l'indice SOX. Je l'avais souligné. Voilà,
Philippe, hein, donc les semi-conducteurs, hein, le secteur et clé, voilà. Semi-conducteurs sur le marché américain.
Voilà, et le SOX, là, il aligne donc une septième séance de baisse. Il est à 203,70. Il vient de plus de 240. Là, il y a vraiment un revirement très très net. Mais c'est tout. La baisse de Wall Street, du S&P, du Nasdaq, elle vient uniquement des valeurs SOX, des semi-conducteurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Alors, je vous parlais de 240, mais en fait, il faut remonter en réalité à début mars. Mais il y a une semaine, il était encore à 225, donc on est exactement à moins 10% en une semaine. C'est énorme, mais il n'y a que ça qui bouge. Le reste, vous retirez les valeurs du SOX, le Nasdaq et le S&P, ils n'ont quasiment pas bougé depuis vendredi dernier. Et entre-temps, il y a eu, on s'est balancé des drones, des missiles, des anathèmes, voilà. Donc, c'est un peu de la gesticulation. Et qu'est-ce qui a rassuré les marchés? Je vais terminer là-dessus très très rapidement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce matin, on n'a pas vu le VIX partir au-delà de 21? C'est que l'Iran avait promis une riposte immédiate et massive. Bon, 4-5 heures après les tirs israéliens, il n'y avait rien. Voilà, donc... on veut dire que les marchés sont probablement bien informés aussi.
C'est-à-dire que c'est... Oui, enfin, les marchés, enfin, tous ceux qui s'intéressent au sujet, visiblement, expliquaient que c'était le best case scénario. Après, il y a toujours des scénarios alternatifs, évidemment, surtout quand on parle de géopolitique et d'escalade. Il y a toujours des risques que ça parte dans des scénarios alternatifs beaucoup plus délétères. Là, le scénario central, tel qu'il était écrit, c'était celui-là. Pour l'instant, on semble rester dedans. Sur la partie sectorielle, Romain, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Philippe le disait, bon, le SOX décroche, c'est quand même un gros morceau, effectivement, parce que derrière, c'est un semi-conducteur, mais derrière, c'est l'IA, etc. Est-ce qu'une valeur comme Nvidia, aujourd'hui, est moins moteur dans les marchés? Et en face de ça, quels sont les secteurs qui apportent peut-être une dynamique positive?
Alors, il n'y a pas de changement majeur de ce côté-là, puisqu'on le disait depuis quelques temps, il n'y a pas de logique sectorielle forte, effectivement, en dehors de l'IA et techno. Et il y a eu un coup d'arrêt, si on prend ces secteurs-là de façon globale. Individuellement, si on regarde Nvidia, elle fait une pause dans un grand trading range qui est 822,74, 951. Elle est plutôt proche de la borne basse et à quelques semaines, quelques jours de ses publications. Il y a un peu de prudence et voilà, on n'a pas de figure de retournement sur le titre. Le risque, si on casse 822,74, c'est d'aller chercher 683. Ça ferait un mouvement de consolidation un peu marqué. Pour l'instant, il faudrait déborder 903. On a eu ce qu'on appelle pour l'instant, puisque c'est en mensuel, un sommet en pince à 903 sur le titre. C'est-à-dire qu'on a clôturé le mois précédent et ouvert le mois en cours au même niveau.
D'accord.
Donc ça, c'est un niveau pivot à surveiller sur le titre. Il n'y a pas grand-chose de plus pour l'instant, à part un peu de consolidation. Après, sur les valeurs, c'est un peu ce qu'on disait individuellement. Si on regarde les 7 magnifiques, elles sont un peu moins belles en ce moment. Il y a quand même Amazon...
Oui, mais on n'en parle plus d'ailleurs.
Mais on n'en parle plus.
Ben oui.
Amazon, bon, elle est sur des points hauts, une résistance majeure à 185,70. Elle a formé un avalement baissier probablement en hebdomadaire. Pas un très bon signal contre un niveau de résistance majeur. Retour 165, 75, 172,10 peut-être. Ça fait 6-7% de consolidation, c'est pas méchant. Apple, elle est pas bien. Elle est toujours au bord de son précipice. Elle était entre 165,20 et 167,20. C'est vraiment un niveau à ne pas rompre. Elle pourrait accélérer plus. Elle peut aussi rebondir sur ce niveau-là. C'est un peu...
Mais d'accord.
Ah ouais,
d'accord.
Attention sous 397 sur Microsoft. Voilà, Tesla, bon, on en parle
Microsoft
beaucoup.
Microsoft, la semaine prochaine. Google, je crois. Et puis Meta aussi.
Google et Meta. Grosses, donc voilà, Google se porte bien. Elle est haussière. Donc, il y a des éléments à surveiller de ce côté-là. Effectivement, du côté des équipementiers, des petites touches à l'achat. J'aime bien l'expression, c'est ça. C'est pas très franc, mais on a trouvé des niveaux de support qu'on enfonce plus depuis plusieurs semaines et on réagit bien aux publications.
Mais
cette fois-ci, on confirme en clôture sur Forvia.
Ouais. Mais le coup d'arrêt sur les Mac 7, sur la thématique semi-conducteur, etc., ça ne génère pas, comme le disait Philippe, un stress global qui emmènerait...
Pas du tout. Voilà, on est allé chercher...
On se demandait à quel point c'était systémique et si ces valeurs-là commençaient à ralentir, voire commençaient à changer de tendance, est-ce que ça pouvait embarquer tout le monde, quoi.
Pour l'instant, et à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que c'est hyper propre. Sur le Nasdaq, on avait une cible qui était située entre 17 170 et 17 250. On est allé chercher cet après-midi, parfaitement, doucement, avec des rebonds importants et même très importants. Une séquence de baisse qui est difficile à travailler pour ceux qui veulent la travailler. Mais on est allé chercher des cibles parfaitement. D'accord. Alors, est-ce qu'on va aller un cran plus bas ou est-ce qu'on va reconstruire à partir de là? De toute façon, rebondir tout de suite sur ces niveaux-là, ce n'est pas la structure que ça donne, puisqu'effectivement, on a mis un peu de temps à construire un retournement, quelques semaines. Ça fait depuis la mi-fin mars qu'on baisse et qu'on a construit cette figure-là. On ne va pas rebondir tout de suite sur des points comme ça et repartir pour une dynamique haussière forte ou rebondisse à court terme, pourquoi pas. Mais recréer une dynamique haussière forte sur ce niveau-là, ça ne va pas être évident.
Je vous ai coupé sur les équipementiers automobiles, mais donc du coup, vous doublez la mi. Enfin,
il y a des trucs de ce côté-là. On n'a pas de structure de retournement haussière forte encore. Il y a la Chine où, selon les paniers de valeur, ça bouge un peu. Il y a quelque chose qui s'est déclenché cette fois-ci aussi, c'est ce côté small et mid caps, on en parle souvent. Là, on a déclenché et débordé des lignes de tendance baissière qui étaient actives depuis deux...
Sur le plan indiciel ?
Sur le plan indiciel et sur des paniers de small et mid caps.
D'accord.
Paniers de moyenne capitalisation européenne, paniers de small capitalisation européenne. Donc là, il y a eu des activations aussi relativement rapides et...
Comme je regarde les indices Molémit, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un grand...
On a débordé des lignes de tendance baissière, on l'a confirmé.
Okay.
Là, ça revient un petit peu. Et justement, pour nous, ça va être des points d'entrée à surveiller. Encore, on va dire, 1 à 2% sur ces... alors, je peux vous donner les codes des trackers en question. CEM, à regarder, MMS, lié à le Itamid. Il n'est pas négociable chez Bourse Direct, mais il existe, il est pas mal. L'Italie.
C'est l'Italie, les small italiennes, bien sûr.
Ils sont fortes.
Très gros marché de small.
Et je retrouve le troisième, mais... CACM, C-A-C-M,
ouais,
qui est un CAC mid aussi, France mid capitalisation, et qui est pas mal aussi. Donc il y a des choses à regarder de ce côté-là, peut-être. Ce n'est pas construit encore pour un rebond, mais on a déclenché.
D'accord, ok. Jean-Louis, sur le marché small et mid, effectivement, ça s'anime, ça se réanime.
Bah là, ça s'anime plutôt dans le sens de la baisse. Hein. Le problème, c'est les carnets d'ordre, ils sont vides, hein, là, vraiment. Moi, je trouve que c'est dangereux parce que... D'ailleurs, tout le monde le sait que c'est dangereux. Donc, dès qu'il y a une nouvelle un peu négative, là, la dernière, c'est comment ça s'appelle, la X-Rail, qui s'est cassé la figure de...
Exail.
L'ancien groupe
Gorgé.
L'ex-groupe Gorgé, elle a perdu 19% hier. Bon,
et encore aujourd'hui, elle baissait.
Et aujourd'hui, elle a se cassé encore la figure, donc ça va très vite. Voilà, donc on continue à avoir des dossiers comme ça un peu... c'est des capis, quoi. 300 millions, un truc comme ça. Donc,
ça ne fait pas revenir des investisseurs de long terme.
Non. Ils ne vont pas revenir là-dessus. Moi, je pense qu'ils vont revenir... Oui, moi, j'avais sélectionné des valeurs. Donc, Valeo, Orange... là, elle était revenue pile poil sur... Ben oui, mais c'est un classique, mais la limite, celui qui a besoin d'investir, il y a le dividende, il y avait le graphique qui était vraiment en support sur 10, là, 10,5. Bon, voilà, c'était des idées d'achat. Moi, ma plus grosse ligne perso, c'est Ruby. Alors, Ruby, j'ai gratté la terre pendant des...
Vous suivez Bolloré ?
Non, mais pendant 2 ans, je ne savais pas.
Ah non, mais...
j'en ai acheté, ça ne voulait pas y aller. Non, mais ça ne voulait pas y aller, j'attendais, il y a un gros rendement. Tout d'un coup, je la vois monter, je me dis, tiens, c'est bizarre, elle monte. Hein, et là, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'elle ne faisait rien, ça faisait des 2 ans. Et puis, tout d'un coup, on annonce que Bolloré a pris... Et là, elle explose. Vendu un titre. Et j'ai eu aussi un petit tilt, je me suis dit, quand même, franchement, l'effet moutonnier, ils ne savent pas quoi faire. Du coup, il y a le parachute Bolloré, il y en a un autre qui est venu passer le seuil des 5%, et du coup, ils y vont tous, là. Non, mais... Donc, ça veut dire que là, c'était l'idée qu'il y a un effet moutonnier, on est en manque d'idées, Ruby, c'est quand même une valeur qui pèse un peu, quand même, on peut y aller... Et voilà, je me suis dit, là, il y a un petit...
Ça fait partie un peu des règles aussi. Non, moi, je me souviens de Valourec. Bref, chez les investisseurs, quand Bolloré est quelque part, être à côté de lui,
normalement,
c'est pas un mauvais pari.
Oui, non, mais...
Mais vraiment, spécifiquement, sur ce nom-là...
C'est le parachute de Bolloré.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que je me suis dit, cet effet moutonnier n'est pas bon. Il y a eu plusieurs petits warnings, comme ça. On voyait donc d'autres actions sur les... Et moi, la semaine dernière, j'ai lancé un warning, j'ai fait acheter des puts, et tu le sais, parce que on achète... Moi, Bourse Direct aussi comme courtier, on a acheté des puts, et parce qu'il y a il y avait plein de petits warnings comme ça, notamment la hausse de l'or, la hausse de tous les refuges, la hausse du dollar, la hausse de la vol douce, là, qui, parce qu'elle montait doucement. Il y avait vraiment une situation comme de fin de quelque chose et qui se préparait. Alors voilà, ça a plutôt bien marché cette semaine. Là, pour l'instant, on a une indication neutre en cette fin de semaine, mais on reste sur un petit coup sur la tête.
Ouais, voilà. Je comprends.
Je ne vois pas non plus le moteur d'une reprise. C'est vrai. On se dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait revenir au plus haut? Mais en même temps, comme il n'y a pas grand-chose dans les carnets d'ordre, il suffit que ça se calme totalement au Moyen-Orient et ça remonte, hein, avec un contre-pied.
Philippe, il faut qu'on parle des matières premières aussi, quand même. Alors bon, aujourd'hui, au moment où on se parle, le pétrole est plus bas que ce qu'il n'était avant le 13 avril, si je ne dis pas de bêtises. Mais au-delà de ça, c'est l'ensemble du complexe qui attire les regards aujourd'hui, hein, de l'énergie, pétrole, gaz, etc., aux métaux industriels, en passant bien sûr par les précieux. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a encore des tendances fortes à suivre aujourd'hui sur des actifs clés? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce complexe des matières premières spécifiquement, Philippe?
Ce qui est intéressant, c'est que globalement, on a une progression globale de l'indice des commodities, et qui est une tendance lourde. L'or et l'argent sont à l'arrêt depuis une semaine, ça c'est assez surprenant vu le contexte. Et sur le pétrole, je dirais qu'on est un petit peu entre deux eaux. Pas de quoi, évidemment, inquiéter fortement les marchés, mais suffisamment tout de même pour que on ait vu le discours de la Fed changer, hein, en disant, et j'ai entendu des membres de la Fed expliquer que il y a effectivement un risque d'inflation de second tour qui ne doit pas être négligé. Donc voilà, les matières premières, l'énergie. C'est un des éléments déterminants de la politique monétaire. En ce qui concerne les métaux précieux, je devrais dire que s'il n'y a pas de nouvelles tensions ou de nouvelles escalades au cours du week-end, qu'est-ce qui fera monter maintenant l'or et l'argent? A priori, une poursuite des achats par les banques centrales. Ça ne sera pas la couverture par des particuliers face à un contexte géopolitique qui ne suscite plus d'angoisse. Donc là, si les banques centrales achètent, il faut se demander lesquelles. Et on a quand même une vague d'idées, bien sûr. Il y a toujours la Chine, la Russie, l'Indonésie, la Turquie. La Turquie, hein, je rappelle que la livre turque est tombée à un nouveau plus bas historique de 32,5 face au dollar. Donc il y a tout un bloc, si j'ose dire, qui n'est pas le bloc occidental, qui continue d'acheter de l'or. Alors quand on se demande la raison profonde, c'est que probablement, là, nous autres occidentaux, avec nos dettes astronomiques et nos rendements qui commencent à devenir assez difficilement soutenables, hein, il va bien falloir payer le service de la dette, on se demande à un moment si les banques centrales Fed, BCE, ne vont pas être obligées de baisser malgré tout les taux parce qu'on est en train d'asphyxier. Le service de la dette nous coûte trop cher, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en train de sacrifier les devises. Donc,
ce risque de débasement monétaire là, qui est pris en compte par les marchés quand on regarde notamment les métaux précieux.
C'est absolument ça, mais c'est ça qui drive, à mon avis, la hausse de l'or et de l'argent depuis le début de l'année. Derrière l'or, l'argent, il y a aussi quelques métaux industriels que moi je suis de près, notamment le cuivre et le nickel. Est-ce que un contexte de ralentissement économique peut justifier leur hausse? La réponse, évidemment, elle est non. Donc si vous avez aujourd'hui une poursuite de la hausse du cuivre et du nickel, il faut regarder ailleurs.
Et d'où peut venir... Philippe, ralentissement économique, c'est-à-dire
On a la patronne hein, du FMI, Madame Georgieva, qui a annoncé que probablement il fallait s'attendre à un petit ralentissement économique en 2024. Enfin, un ralentissement.
Ils viennent de réviser à la hausse, Philippe.
Hein ?
Ils viennent de réviser à la hausse, Philippe.
Le FMI,
tout est révisé à la hausse, là.
Non, ils ont révisé à la baisse, par exemple, l'Allemagne.
Ah non, mais l'Allemagne, d'accord.
Oui, mais l'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe.
La Chine donne une amélioration cyclique industrielle, tout est révisé à la hausse, à part l'Allemagne et la France, je suis d'accord. Mais,
La Chine.
Bien sûr que les marchés de métaux et de cuivre réagissent à l'Allemagne et la France.
Non, mais la Chine, on sait bien que les chiffres officiels de croissance à 5,3, qui pense que ces chiffres sont sincères. La réalité, c'est que la consommation en Chine et les ventes de détail sont en repli. Non, bon, je referme la parenthèse. Donc,
consommation, oui, d'accord, mais la production, enfin bon, bref. Bref, il y a quand même l'idée d'une amélioration conjoncturelle cyclique, au moins conjoncturelle. Là-dessus, je vois que tous les indicateurs affichent des surprises positives sur le plan industriel et manufacturier aujourd'hui, Philippe.
Bon, admettons. Admettons. Mais c'était pas ça mon propos. C'est de dire que si aujourd'hui nickel, cuivre et d'autres métaux commencent à grimper, c'est qu'on se demande si les tarifs que Joe Biden veut, les taxes, il veut les tripler sur les importations d'acier chinois. Mais les Chinois, je pense que leur prochain coup, ça va être de nous dire bon, si les taxes sur l'acier augmentent, le prix du nickel. Et comme on est les seuls à en raffiner quasiment. On est quasiment les seuls à en raffiner. Et le cuivre, là aussi, c'est nous à 60% qui raffinons le cuivre. Vous allez voir que les Chinois vont se dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, nous aussi, le prix des métaux va grimper. Et tout ça risque d'être inflationniste. Mais nous, on ne peut pas monter les taux encore plus pour combattre l'inflation. Donc il y a un moment où les banques centrales risquent de perdre le combat. Et puis, à choisir entre deux mots, entre une récession qui provoquerait une chute des marchés et puis lâcher le dollar, l'euro, ce qui permet finalement de se désendetter, je pense que le choix sera vite fait. Donc j'en reviens à mon propos, que ce sont des banques centrales de pays hors G7, hors pays occidentaux, qui continuent de se prémunir contre une future baisse du dollar et contre une éventuelle future guerre des tarifs douaniers. Puisque généralement, une année électorale, c'est ce qui se passe. Hein. C'est toujours très très populaire de dire on va taper sur les vilains chinois.
Sur les matières premières, là, qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement et est-ce que c'est l'idée un peu d'un super cycle qui fait son retour là?
Oui, on l'évoquait le mois dernier. Hein. Le panier de matières premières qu'on suit, l'ex Thomson Reuters CRB, a débordé une ligne de tendance baissière qui est active depuis 3 ans. Elle valide puissamment cette fois-ci une structure en double bottom. On passe sur le produit qui va entre la zone 20-41, 23-37, on en sort par le haut, ça donne comme cible 26-28, ça laisse encore une marge de progression de l'ordre de 10% sur un panier global de matières premières. Sur le Brent, on avait donné une cible à 91-23, on l'a touché cette semaine, on bute en dessous, on est dans un trading range maintenant 86-10, 91-24. On bloque entre les deux, c'est intéressant de voir la volatilité sur le pétrole, il y a plus de 4-5% de volatilité en 48 heures, 24-48 heures, dans les deux sens. Donc beaucoup de volatilité dessus, on a touché des cibles. Sur le cuivre, on est haussier, on a sorti d'une structure de retournement haussière. On a en mire 4,95 à 5, le cuivre vaut 4,47 à peu près à l'instant. On a débordé encore un support 4,42 et on a comme niveau intermédiaire 4,65. Donc un mouvement qui reste haussier, mais on approche des niveaux cibles parfaits du mouvement. Sur l'or, la cible, c'est 2452. On vaut 2380. Nous, on a pris un petit peu de bénéfices.
On est allé voir 2450.
Non, la cible, c'est 2452.
D'accord. On n'est pas monté jusqu'à ce niveau-là? Non.
Je crois pas. C'est pour ça qu'on prend un peu de bénéfices, effectivement, considérant qu'on est proche de la cible. Sur l'argent, l'argent dont on parle souvent,
oui,
on a débordé
25,50,
ça y est. Franchement, avec du volume, une position ouverte spéculative importante, on a débordé le niveau de 28,13. On a touché 29,85 parfaitement. Donc c'est un marché qui reste hyper technique, haussier. Le fait de sortir de cette congestion qui datait de plusieurs années sur l'argent, 3 ou 4 ans de consolidation, nous donne comme cible 34,70 à 35. Donc il y a encore un mouvement haussier sur l'argent. C'est peut-être là où il y a le plus de potentiel encore. Quant eh bien, au gaz, il y a quelques divergences.
Est-ce que ça vaut le coup de regarder les minières ? Aurifères, argentifères, c'est des petits marchés, c'est des très grosses boîtes, hein, mais je veux dire,
Pour l'instant, on n'a pas de signaux vraiment de ce côté-là, d'accord. Mais il y a eu quelques mouvements et on voit des contre-pieds assez énormes, notamment ArcelorMittal qui avait tenté de déborder les niveaux, qui a fait des gros contre-pieds. Donc pour l'instant, c'est pas franc de ce côté-là. Et sur un panier de valeurs comme le BRS, un panier de ressources de base, on voit qu'on a touché des résistances et pour l'instant, ça cale un petit peu. Mais sur les matières premières en général, donc oui. Un mouvement qui reste haussier, mais dans lequel on a déjà consommé une partie du potentiel. Donc, peut-être que ça va limiter un peu cet aspect inflationniste qui fait tant peur.
Sur le Forex, c'est donc le roi dollar. Jean-Louis, quand on regarde la paire euro-dollar, est-ce que la baisse a déjà été consommée, au moins en bonne partie, ou est-ce qu'elle ne fait peut-être que commencer là ?
Alors, sur le plan technique, c'est baissier. Maintenant, Il y a une vraie logique avec les faits. Hausse des taux, forte hausse du taux souverain américain, etc. Le dollar qui sert de refuge. Donc tout va dans le sens que le dollar, il est logique, qu'il s'apprécie contre l'euro. Maintenant, dans une optique fondamentale, on voit que les économistes, les chercheurs, les analystes se disent que, a priori, le dollar devrait baisser. Donc, comme l'a dit Philippe, c'est vrai que l'idée, ça serait que le dollar baissera avec la baisse des taux et donc un équilibrage avec la reprise aussi de l'économie en Europe, etc. Ça renforcera l'euro. Donc, on a à court terme, une convergence entre le cours qui de l'euro-dollar, de l'euro qui baisse et du dollar qui monte dans une logique de taux d'intérêt. À long terme, on a une divergence. Donc je pense que ça va constituer un frein extrêmement important.
Et pour une baisse supplémentaire de l'euro-dollar.
Voilà. On va avoir du mal à baisser.
Okay, je comprends.
On peut rester baissier.
D'accord.
Techniquement, là, on peut se dire, tiens, on va vendre sur des rebonds, mais ça peut vite passer. On va dire que tant qu'on est sous 1,07, on reste sous pression. Mais là, tout à l'heure, on était déjà remonté à 1,06,75, quand je suis parti. Donc, vous voyez, c'est... Après, il y a un pivot à 1,0840. Au-dessus, là, on s'éloigne du danger et on repart dans une dynamique plutôt haussière. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu de gros écarts ces derniers temps. Une pression normale.
Il y a eu quoi, réaction... de 1,0950 à 1,0650 ou moins, quoi. Oui.
Voilà, on a eu une réaction normale, tout à fait logique, avec tous les événements du contexte économique, géopolitique, etc. Donc, voilà, je pense que ça n'ira pas bien bas. Il n'y a pas de raison d'investir sur l'idée que le
on
dollar...
On va la parité, quoi.
Non. Pour l'instant, non, il n'y a rien qui est dans ce sens-là.
Oui.
Maintenant, bon, sur le plan technique, c'est un peu baissier, mais on voit, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de raison. Après, c'est vrai que quand on est trader, il faut regarder les tendances, tout l'aspect technique, parce qu'il peut y avoir des surprises. Bon, mais c'est vrai que moi, si je devais aujourd'hui prendre une position, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je suis un petit peu vendeur, je coupe très vite, j'essaye de faire des écarts, j'essaye pas de faire une grosse tendance et je ne parie pas sur un gros mouvement de repli.
Ouais,
c'est tout. C'est pas une période où on va se faire un scénario de fort directionnel. Voilà. On va rester tranquille.
Philippe, un mot rapide pour conclure sur le halving du Bitcoin qui aura lieu je ne sais quand, dans quelques heures. Qu'est-ce que ça peut générer comme réaction ?
Écoutez, j'ai écouté très attentivement les vrais spécialistes. Je n'en suis pas un, je ne revendique pas de l'être, évidemment. Et je dois dire que même entre spécialistes, tout le monde n'est pas complètement d'accord, notamment sur la poursuite de la hausse du Bitcoin en direction des 100 000. Certains disent, cette fois, c'est différent. Le contexte est différent, mais la grande leçon qu'on retiendra de la semaine écoulée, c'est que ni le Bitcoin et encore beaucoup moins d'autres cryptos, donc le Bitcoin, je dirais que pour ceux qui en détenaient, ils sont bien contents d'en avoir eu plutôt que du Solana, de l'Avalanche ou du Ripple, la semaine se termine pas trop mal pour le Bitcoin aux alentours des 65 000. Par deux fois, on a vu 60 000. Dès qu'il y a un coup de stress, effectivement, on voit que cet actif est vendu. Donc, la conclusion, c'est que si les marchés redeviennent haussiers et si on repart dans les anticipations de baisse de l'euro, de baisse du dollar qu'on a déjà tous évoqué ensemble tout à l'heure, le Bitcoin conservera l'intérêt d'un actif qui a plutôt tendance à s'apprécier par rapport à des devises dont les banques centrales se fichent un peu, en tout cas de leur mandat qui consiste à assurer leur stabilité. Mais par contre, dès qu'il y a un moment de tension, bon, ben on voit que c'est un actif spéculatif et qui est vendu comme les autres. Donc, les cryptos, bah ça va bien quand les marchés montent, ça a plus de levier que le reste, mais on n'a pas appris grand-chose de nouveau, sauf que là, depuis le 24 février 2022, on n'avait pas vraiment vu le Bitcoin à l'épreuve de tensions géopolitiques. Bon, bah on sait que c'est pas ça non, qui nous protège.
C'est pas l'or numérique à ce stade, en tout cas. Merci beaucoup, Philippe Béchade, qui était avec nous, bien sûr, président des Econoclasts, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et à nos côtés en plateau, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Romain Dobry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, avec nous chaque troisième vendredi du mois pour les grandes échéances de marché.